おかしいおかしい、
dialogue en son congolais à présent avec Jean-Claude Toumba, Kamanga, la présentation.
Bonsoir, opération Kinia 2, la MONUC n'est pas disposée à suspendre son soutien à cette opération, telle que souhaitée par l'ONG Oxfam International, qui a déploré les conséquences de Kinia 2 sur les populations civiles de deux Kivu. Pendant ce temps, le commandant des opérations Kinia 2 précise que ces opérations concernent en plus les FLR, tous les autres groupes armés locaux réfractaires au désengagement ou à l'intégration au sein des FARDC. C'est le menu de cette émission Dialogue entre Congolais. Et nos invités ont pour nom Manoje Munubai, il est porte-parole de la MONUC, Marcel Stossel, directeur national de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne en RDC, le colonel Delphin Kaimbi, il est commandant des opérations Kinia 2 au Sud Kivu, et Didier Bitaki qui va nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. À tous, bienvenue dans ce débat.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Opération Kinia 2, la MONUC n'est pas disposée à suspendre son soutien à cette opération, telle que souhaitée par l'ONG Oxfam International, qui a déploré les conséquences de Kinia 2 sur les populations civiles des deux Kivu. Je vous ai dit que nous avons M. Manoje Munubai dans ce studio. Bonsoir, M. Manoje.
Bonsoir.
Et nous avons Marcel Stossel qui est en ligne depuis Goma. Bonsoir, M. Marcel.
Bonsoir.
Et le colonel Delphin Kaimbi. Colonel, bonsoir. Pas encore. Voilà, on me signale que le colonel n'est pas encore en ligne, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Alors, je reviens, je me tourne directement vers vous, M. Manoje Munubai. Vous l'avez dit, tous les auditeurs de Radio Okapi qui ont suivi en tout cas les journaux de ce lundi matin, vous avez dit que vous émettez des réserves par rapport aux souhaits de l'ONG Oxfam, qui n'est pas la seule, hein, il faut le dire, qui réclame la suspension de cette opération, notamment Kinia 2, là on peut penser au projet INAF, hein, dont les noms viennent d'ailleurs de passer tout à l'heure, toujours dans nos journaux. Vous le confirmez, M. Manoje Munubai?
Oui, tout à fait. D'abord, je dois encore une fois dire que nous partageons entièrement les préoccupations exprimées par différentes organisations non gouvernementales, dont Oxfam. Nous sommes au courant de la situation de la population civile qui est attaquée par-ci, par-là, par les FDLR. Cependant, nous pensons que ce n'est pas en arrêtant ces opérations militaires en cours que la situation va s'améliorer. Bien au contraire, si ces opérations ont été lancées, c'est bien pour arrêter les FDLR dans leurs exactions contre les populations civiles.
Alors, M. Marcel Stossel, votre réaction?
Oui, bonsoir à tout le monde. Ce n'est pas que Oxfam demande tout simplement l'arrêt des opérations, la suspension des opérations. Oxfam a fait des entretiens avec presque 600 civils qui sont concernés à travers de l'Est du Congo par les opérations militaires. Et ces civils nous ont clairement dit qu'ils se sentent moins protégés qu'avant. Plus que 80% des personnes civiles que nous avons interviewées ont dit qu'ils se sentent moins protégés maintenant qu'avant l'opération. Ils se sentent moins protégés non seulement évidemment par le FDLR, mais aussi et surtout par les forces gouvernementales. Donc, nous sommes très contents d'entendre et du côté gouvernemental d'une politique de tolérance zéro vis-à-vis des abus commis par l'armée congolaise. Nous sommes également contents des récents statements que nous avons entendus du colonel qui va nous rejoindre, que la protection des populations civiles va avoir la priorité. Par contre, sur le terrain, c'est pas ce que nous observons. Sur le terrain, ce que nous observons, c'est une augmentation des violences contre les civils spécifiquement qui sont maintenant sous une suspicion générale de la part des deux côtés. Et KLR et de l'SRDC, et aussi de la part d'autres groupes. Donc ce sont les civils vraiment qui payent le prix, qui payent le prix pour ces opérations. Selon les Nations Unies, plus de 800 000 civils se sont déplacés, ont quitté leur foyer au nord et au sud Kivu depuis le début des opérations en janvier. Et ce que nous disons, c'est que maintenant, ce serait le temps de faire le bilan de l'opération du nord Kivu et peut-être de réfléchir, est-ce que ce prix qui est payé par les civils, est-ce qu'il correspond vraiment aux objectifs de cette opération? Et ce que nous disons, c'est que pour le côté de la MONUC, et surtout, je dirais, le gouvernement du Conseil de sécurité plutôt que la MONUC comme institution, la MONUC ne devrait pas soutenir cette opération sans en mettre des conditions. Et une condition claire.
Monsieur Marcel?
Oui.
Mais la MONUC, justement, dit qu'elle partage d'abord avec vous vos préoccupations pour les populations civiles, mais elle pense, comme vient d'ailleurs de le souligner encore Manoji Monobal, que arrêter ou suspendre ce soutien aux offensives des SRDC, c'est donner ou laisser du champ au FDLR.
Bon, nous ne sommes pas des experts militaires, mais les experts militaires, ils sont quand même non eux ceux qui pensent que cette approche ne peut pas avoir du succès. De nouveau, nous avons demandé les populations eux-mêmes. Nous avons demandé la population civile, mais presque 600 personnes. Nous avons demandé, selon vous, qui ont vécu avec les FDLR, quelles seront les solutions selon vous? Parmi 14 communautés qui ont vécu ou qui vivent à l'heure actuelle avec la présence FDLR, il y a 10 communautés qui ont proposé comme première solution le désarmement volontaire. Et nous pensons que le désarmement volontaire, effectivement, n'a pas la priorité à l'heure actuelle. 9 communautés demandent des pourparlers ou des négociations, un dialogue, notamment entre les communautés au Rwanda. Seulement 2 parmi 14 communautés avec présence FDLR ont dit qu'ils sont d'accord, ils préconisent une offensive militaire. Et notre question, c'est tout simplement, est-ce qu'on n'a pas demandé ces gens avant de lancer ces opérations? Ce n'est pas à nous de dire si ces opérations sont bien ou pas, mais les faits sur les civils, les viols, les pillages, les tortures, ils sont là et ce sont les civils qui payent les prix. Est-ce que la situation va réellement s'améliorer ou est-ce que ce sont juste les civils qui vont payer le prix et ça ne va pas s'améliorer? Ça, c'est une question que je pense qui est encore ouverte à l'heure actuelle.
Voilà, on va donner la parole. Nous avons annoncé le colonel de Kalindi, mais dommage, dernière nouvelle, le colonel Kalindi vient d'aller sur le terrain des opérations, donc il ne pourra plus participer à cette émission. Nous sommes vraiment désolés parce qu'on avait toute l'assurance, même en entrant dans ce studio, nous aurons à la place du député provincial Nzangi Mouyindo qui est en ligne. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir.
Voilà, votre avis d'abord par rapport à cette prise de position de l'ONG Oxfam qui a demandé à la MONUC de suspendre son soutien aux opérations menées par les SRDC, opération Kimia 2. Contre l'aide de mer.
Oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, toutes les informations données par l'ONG sont vraies. C'est-à-dire, il y a une situation sans bien être située, mais Dieu peut prendre la semaine de formation qui mérite. Mais ce que je ne partage pas avec cette ONG, c'est qu'effectivement, l'ONG demande à la MONUC de pouvoir suspendre sa participation aux opérations. Or, nous avions plutôt souhaité que la MONUC puisse renforcer sa façon de participer. Puisque effectivement, selon ce qui avait été annoncé par la MONUC, c'est que la MONUC s'inviterait à porter militairement par la logistique. Et ce qui nous a suggéré, c'est qu'effectivement, cette opération n'est pas en train d'être bien faite, puisque effectivement, j'ai oublié par exemple, dans mon territoire de Lubero, le transport du matériel de guerre est fait par la population. Or là, nous avions vraiment besoin de que la MONUC allait donner suffisamment de moyens aux FRDC pour pouvoir le faire. La deuxième chose, c'est que la MONUC s'inviterait à la protection de la population. Or, tout ce que nous voyons maintenant, c'est que même dans les zones qui sont entièrement occupées par les FRDC, il y a un défaut que dans les zones qui sont occupées par les FDLR. Or, dans plusieurs zones, la MONUC est présente et on ne sait pas effectivement la MONUC en train de s'impliquer activement dans la protection de la population. Ce que nous demandons, nous, au contraire, c'est de demander à la MONUC de jouer réellement le rôle qu'il avait lui-même promis de faire avant la semaine de la Kétinéade.
Alors, la MONUC qui ne s'implique pas assez dans la protection des civils, ça c'est le député provincial Nzangi Moïngo qui le dit. Monsieur Manoje Mounoubaï, qu'est-ce que vous lui répondez?
D'abord, il faut dire que les résultats des enquêtes de Oxfam, Oxfam vient de dire qu'elle elle a entrepris cette enquête et ce sont les résultats qu'elle a partagés avec nous. Ça, ce sont des choses que nous avons commencé à faire sur le terrain depuis plusieurs mois. Comme vous le savez, et je l'ai souvent répété à ce micro, nous avons sur le terrain aujourd'hui déployé une quarantaine de ce que nous appelons des équipes conjointes de protection qui sont chargées justement de parler avec les populations, de connaître un peu leur état d'âme et leur état d'esprit, de parler avec les institutions sur place, les chefs traditionnels, la société civile, etc., pour connaître un peu dans quelle situation ils vivent et ce qu'ils attendent.
Mais est-ce qu'en menant ces opérations, excusez-moi, est-ce que vous aviez tenu compte de leur point de vue?
Effectivement, nous avons toujours tenu compte de leur point de vue et c'est en fonction de cela que nous évaluons les zones que nous sentons être sous un danger imminent et c'est en fonction de cela que nous déployons sur le terrain les équipes mobiles de la MONUC. Comme vous le savez, comme le nom l'indique, ce sont des équipes mobiles qui se déploient en fonction du niveau d'insécurité. En fonction de ce niveau d'insécurité, nous installons ces bases, et quand nous voyons que le niveau de sécurité a baissé, nous les déplaçons vers d'autres zones. Les FDLR ne sont pas une armée qui sont statiques. Depuis que les FDLR ont perdu leur base, ils sont tout le temps en mouvement. Donc, et très souvent, quand vous entendez parler de ces attaques, ce sont des attaques qui ont lieu dans des endroits où la MONUC n'est pas déployée, ou dans des endroits où la MONUC vient de partir, ou dans des endroits où les FRDC non plus ne sont pas déployés. Donc vous voyez un peu les difficultés dans lesquelles nous travaillons. Ça, c'est pour dire que les équipes conjointes sur le terrain nous permettent quand même d'essayer d'apporter une protection à la population, mais que nous sommes là face à des ennemis qui sont tout le temps en mouvement. Deuxièmement, la solution au problème à l'Est ne peut pas seulement être militaire. Quand nous parlons de la protection de la population, il faut l'envisager sous d'autres angles que seulement militaires.
Mais à vous entendre parler, mais ça c'est Oxfam aussi qui accuse un peu, il dit que la force militaire semble être la priorité.
Non, la force militaire n'est pas la priorité. C'est un des axes sur lesquels nous travaillons. Je vous rappellerai simplement que lors de sa dernière déclaration devant le Conseil de sécurité, le représentant spécial, M. Alain Doss, avait demandé qu'on mette en place une politique globale qui comprend une approche politique, diplomatique, économique, afin de résoudre ce problème. Donc, si nous utilisons le moyen militaire, ce n'est pas le seul moyen. Il faut mettre en place une politique globale. Et c'est ce que nous demandons et ce que nous attendons de la part des États membres, de soutenir cette politique globale pour mettre fin à ce problème à l'Est. Quant au renforcement, comme le souhaite effectivement, encore une fois, oui, ce renforcement, nous y travaillons, ce renforcement est en route, mais encore une fois, ce n'est pas la solution magique. Ce n'est pas les 3000 soldats de la MONUC qui vont venir, qui vont définitivement résoudre le problème à l'Est.
C'est quoi la solution magique alors?
Il n'y a pas de solution magique. Il faut des solutions pratiques qui prennent en compte la situation sur le terrain, sous tous ses angles, et ce n'est que comme ça qu'on peut y arriver. Il faut aussi non seulement renforcer les FRDC sur le terrain du point de vue militaire, du point de vue structure, du point de vue discipline, mais nous demandons, comme le Conseil de sécurité a toujours dit, quand nous parlons par exemple de solutions politiques, c'est l'implication de tous les pays de la région, quand nous parlons de solutions politiques, c'est ce que a fait, par exemple, la mission du l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, l'implication de la SADC. Ça, ce sont les implications politiques. Quand nous parlons de solutions diplomatiques, c'est que au niveau des pays de la sous-région, il faut qu'il y ait plus de confiance dans leurs relations quand ils traitent de ces problèmes. Il faut tout cela. On ne peut pas seulement penser qu'en mettant sur place un certain nombre de militaires, on va défaire militairement les FDLR et on aura une paix durable dans la sous-région.
Alors, Marcel Stossel, vous qui êtes directeur national de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne en RDC, il y a d'abord le député provincial Zangi Muhindo qui n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Lui plaide plutôt pour le renforcement notamment de la MONUC, alors que vous vous demandez à ce que la MONUC puisse suspendre son soutien au FARDC. Et puis il y a cet auditeur, Étienne Mouer de Béni et Mort, qui vous, il pense que les ONG doivent laisser la MONUC et le FARDC mettre en déroute les FDLR. La population, dit-il, n'a pas besoin des dons en vivres, mais rien que la paix pour son développement. Marcel Sossel.
Oui, je dois quand même corriger un certain nombre de choses qui étaient dites dans les dernières minutes. Vous avez répété maintenant la troisième fois que Oxfam demande la suspension des opérations, ce qui n'est pas exact. Je sais que Radio Okapi, c'est une chaîne de la MONUC, et financée par la MONUC, mais ce n'est pas exact. Hein. Ce que Oxfam dit, c'est que ces opérations doivent être soumises à certaines conditions, elles doivent se passer dans certaines conditions. Et une des conditions, c'est que l'impunité de la part des forces armées congolaises, cette impunité doit s'arrêter. Et si la MONUC soutient certains brigades dans des opérations offensives, nous pensons que c'est une opportunité pour appuyer le gouvernement qui a exprimé clairement sa volonté de zéro tolérance. La MONUC a aussi exprimé récemment la politique de zéro tolérance, parce que c'est ça la réalité sur le terrain. Monsieur Mounoubaï, vous êtes un bon porte-parole, mais c'est aussi un peu la propagande ce que vous faites ici, c'est votre travail de faire la propagande, mais c'est pas la réalité ce que vous nous dites, c'est pas la réalité sur le terrain. Ce que les 600 civils nous ont raconté, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous avez combien de personnes dans la MONUC qui parlent français, monsieur Mounoubaï? Vous avez combien de personnes dans la MONUC qui peuvent vraiment interagir avec la population? Il y a la population qui s'est clairement exprimée quand on a demandé ce sont qui les acteurs qui devraient vous protéger. Ils ont mentionné deux acteurs principaux. Ils ont mentionné l'armée congolaise et la MONUC. C'est leur perception que ces deux acteurs devraient les protéger. Ils ont mentionné dans la majorité des communautés que l'armée congolaise ne les protège pas. Pourtant, il y a des bons exemples où la population pense que l'armée congolaise les protège. Ce n'est pas une généralisation pour toute l'armée congolaise, mais en grande majorité, les personnes se sont autant en danger de la part de leur propre armée que de la part de l'ennemi, comme vous le dites. Combien de gens qui sont vraiment là pour interagir, et la population demande des patrouilles sur pied. La population qui voit, c'est la MONUC, ce sont des patrouilles motorisées le long des axes principaux. Mais ça, c'est pas là où le danger se passe pour les populations. Ils veulent voir la présence de la MONUC dans l'unité.
Marcel Stossel, en tout cas, loin de nous, hein, l'intention de, je sais pas, ne pas dire la vérité ou la voiler, parce qu'on doit, jeter des fleurs à la MONUC, en tout cas, loin de nous cette idée que vous nous faites porter. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons invité, c'est pour vous donner la parole. Et finalement, vous dites qu'on a tendance à ne pas donner le sens exact de votre communiqué, mais vous êtes dans la mission, allez-y, concrètement, c'est quoi que vous demandez à la MONUC?
Ce que nous demandons à la MONUC, c'est dans le cadre de ces opérations qui se passent, de travailler avec l'armée congolaise dans des conditions très précises, que la première condition devrait être que les auteurs de violations des droits de l'homme au sein des forces armées, que ces auteurs soient enlevés des brigades concernées avant qu'un soutien ait lieu. Deuxièmement, nous demandons que la MONUC soutient l'opération seulement s'il n'y a plus d'enfants combattants dans les brigades concernées. Et troisièmement, nous demandons que le désarmement volontaire est répriorisé. Nous ne disons pas que le désarmement volontaire ne se passe pas, mais il doit être répriorisé. Et là, de nouveau, je lance la question à M. Monoubaï. Combien d'officiers de désarmement civil vous avez, par exemple, dans le territoire de Lubero? Il y en a très peu. Vous dites qu'il y a d'autres solutions qui sont en cours à part des opérations militaires. C'est pas à nous, à Oxfam, de juger si l'option militaire c'est la bonne ou pas. Nous sommes des invités au Congo. Oui. C'est pas à nous de faire la politique au Congo. Mais on ne voit pas l'évidence que vous prioritisez les autres chemins que les chemins purement militaires.
Voilà, on vous a compris, M. Monoubaï, vous allez peut-être y répondre rapidement parce que on a prévu deux thèmes. On va reprendre le député Nzangi. Et peut-être qu'on va revenir à vous, hein, M. Monoubaï, parce qu'on vient d'avoir Nzangi il n'y a pas longtemps. Vous enregistrez, mais vous allez répondre à toutes ces préoccupations de Marcel Stossel. Oui, Nzangi Mouindo. Monsieur le député provincial, on a perdu Nzangi Mouindo. On va tenter de le reprendre, mais je vous donne la parole en attendant, Monsieur Manoje Monoubaï, pour répondre à ce que c'est, Marcel.
Oui, c'est vrai. Et nous n'allons pas commencer à nous lancer dans ce type d'attaque. Monsieur voudrait savoir combien de gens de la MONUC parlent français. Je ne sais pas si j'ai une statistique, mais si nous commençons à parler de langue, je crois qu'il faut demander peut-être aux gens de parler les langues nationales. Ce serait peut-être mieux. Maintenant, en ce qui concerne notre travail, nous travaillons avec les FARDC dans des conditions bien déterminées. Dans le cadre, par exemple, de Kinia 2, il a été bien décidé que nous ne participerons que dans des programmes, dans des opérations qui ont été planifiées d'un commun accord, planifiées ensemble. Et dans cette planification, toutes les brigades, toutes les unités, toutes les sections qui participeront à ces opérations avec nous, nous nous assurons qu'ils ont d'abord été briefés en ce qui concerne le droit humanitaire international et le droit de l'homme. Voilà comment nous travaillons avec les gens des FARDC. Il y a très certainement des dérapages, mais je ne pense pas que ce sont les FARDC en général qui se rendent responsables de ce que nous observons sur le terrain. Il y a certains éléments, il y a certaines unités, peut-être des FARDC, qui ne se comportent pas correctement, et nous sommes les premiers à les dénoncer. Et nous sommes heureux de constater, par exemple, qu'il y a des efforts qui se font au niveau de l'État congolais, par exemple, cette politique de tolérance zéro. Il y a eu un certain nombre d'éléments, des officiers, des sous-officiers, des hommes de troupes de l'armée nationale congolaise qui sont passés devant la justice pour répondre des actes répréhensibles dont ils ont été accusés. Ce sont là, peut-être, des petits pas, mais le plus long voyage commence avec le premier pas. Je crois que vous avez...
Oui, mais il a dit, Marcel Stossel a aussi dit, il ne comprend pas pourquoi la MONUC continue à soutenir les FARDC dans cette opération, alors qu'il y a des auteurs de violences qui sont encore dans les rangs, hein, des FARDC notamment, les enfants soldats. Pourquoi ne pas arrêter?
Non,
poser cela comme
non. Encore une fois, nous avons sur le terrain des responsables de notre section chargée de la protection de l'enfant qui travaillent en collaboration avec les droits de l'homme et avec les FARDC. Il n'y a aucune unité des FARDC engagée dans une opération conjointe avec la MONUC et au sein desquelles on trouve des enfants. D'ailleurs, c'est la première des conditions que nous posons. Une des premières conditions, c'est que ces unités ne comportent pas en leur sein des enfants. Donc, nous n'avons pas des enfants sur nos théâtres d'opération qui sont dans les rangs des FARDC. Ce n'est pas correct.
Voilà, il y a une info là qui vient de tomber pendant que nous parlons justement de cette traque contre les FDLR. Là, c'est au Sud Kivu, l'avancée victorieuse de l'armée congolaise FARDC dans la traque contre les combattants rwandais FDLR est signalée sur plusieurs fronts dans les hauts et moyens plateaux de la plaine de la Ruzizi. Selon les notabilités locales, dans les zones de combat, un grand bastion de FDLR à Kigushu est tombé entre les mains des FARDC depuis ce lundi matin, information confirmée par plusieurs sources indépendantes ainsi que les FARDC. Peut-être un petit commentaire avec vous, monsieur le député provincial de Zaïmoui, parce qu'on signale que nous venons de vous retrouver.
Oui, je crois que je suis aussi content du remarque de débat, puisqu'effectivement, là, ça nous permet de faire une petite évaluation de l'action et des parts de la monnaie. C'est que de ce sur lequel j'ai pas insisté, c'est qu'effectivement, comme je suis en train de dire, vers les ONG de la monnaie, il y a des problèmes sérieux au niveau des opérations. Il y a, en tout cas, des exactions qui sont notables, palpables partout. Vous trouvez des villages incendiés, mais quand vous demandez à la population ce qui s'est passé, vous trouvez bien que les gens sont impliqués et l'armée nationale est impliquée. Et vous trouvez, par exemple, des endroits où on incendie des maisons, alors que la Monique est à 15 kilomètres de l'endroit. Donc, c'est vraiment un problème sérieux. Bien qu'effectivement, nous savons aussi qu'il y a des parties où l'armée se comporte très bien. Il y a aussi d'autres parties du territoire où l'armée se comporte très mal. Et c'est à ce niveau que la population avait vraiment besoin de l'appui de la Monique, surtout à terme de la protection des civils. Et ça, je crois que l'ONG vient de le dire, et tout le monde est conscient qu'effectivement, l'action de la Monique doit être vraiment révisitée. Si la population insiste que la Monique ne fait pas le travail très bien, il faut qu'on comprenne effectivement qu'il y a des problèmes réels. Par exemple, on vous le dit, et partout là, les parties de la Monique ne sont que dans les zones qui sont vraiment sécurisées. Alors qu'il y a des parties où la population a vraiment besoin de l'appui de la Monique dans le cas de la protection des civils. Donc c'est à ce niveau que je me dis qu'effectivement ce débat est très encouragé, puisqu'effectivement là ça nous permet de dire à la Monique face à face que les choses ne marchent pas telles que la population veut que ça marche. Il faut vraiment que vous puissiez définir d'autres formes de stratégie pour essayer de rendre l'action de la Monique efficace sur le terrain. Et ça, ça permettrait effectivement que nous puissions le faire. La deuxième chose que je veux insister sur le fait que l'ONG... Oui, l'ONG insiste sur le fait qu'on doit combiner les deux stratégies, notamment la sensibilisation, les rapatriements volontaires et les actions militaires. Il y a beaucoup, quelques uns de nous verrons beaucoup de terrains qui veulent effectivement retourner par la voie pacifique. Mais est-ce qu'il y a des structures pour les encadrer? Il n'y a pas de structures. Parmi eux, il y a beaucoup de civils qui ne sont même pas dans l'histoire des combats. Qui sont seulement là avec les combattants, mais qui veulent retourner. Est-ce que vraiment la Monique discute avec eux dans les cas très positifs pour les encourager à quitter? J'ai rencontré par exemple les boss de l'air à Lubero qui ont dit qu'il y a beaucoup d'autres combattants qui veulent se rendre. Mais est-ce qu'il est prévu des structures pour les amener à se rendre? C'est pour cela que nous disons que la Monique, je crois que les structures, il a demandé qu'effectivement on puisse renforcer les mécanismes de mise en œuvre de cette politique de rapatriement de ces combattants. Et c'est très important si vous voulez que toi, les Lubero.
Voilà, Manager Mounoubaye.
Oui, honorable, il existe une structure qui s'occupe du rapatriement des Rwandais, au Rwanda, que ce soit des militaires ou que ce soit des civils. Au sein de la Monique, nous avons la section de DD3R qui s'occupe uniquement des combattants et de leurs familles. À côté de cela, il y a le HCR qui rapatrie sur la base aussi volontaire de tous les civils. Donc, ces civils dont vous parlez, ces personnes dont vous parlez, si ce sont des combattants, ils doivent se rapprocher de la section DD3R de la MONUC qui s'occupera de toutes les formalités administratives nécessaires pour les rapatrier chez eux. Et s'ils sont des civils, le HCR est là pour le rapatriement de ces personnes civiles. Chaque semaine, les mercredis, à l'occasion de notre conférence de presse, nous nous efforçons de donner le progrès qui est fait dans ce rapatriement des civils et des combattants. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, la barre de 10 000 a déjà été dépassée depuis seulement janvier 2009. Donc les structures existent aussi bien pour les combattants et leurs familles que pour les civils.
Alors, on va essayer de mettre fin à ce débat, du moins la première partie de ce débat, avec d'abord Marcel Stossel. Un dernier mot sur ce point, parce qu'on va passer dans la deuxième partie aux attaques, aux opérations, telles que c'est planifié au niveau du Sud Kivu.
Oui, merci beaucoup pour ce débat. J'espère qu'on peut se retrouver peut-être dans 3 mois dans la même constellation pour refaire le point. Je pense que c'est un débat quand même nécessaire.
Vous pouvez compter sur nous.
Monsieur le député a dit que c'est nécessaire. Je pense que c'est vraiment le temps pour parler aussi de l'impunité. C'est le temps de parler à des alternatives ou des actions complémentaires aux actions militaires. Et ce débat, il doit être possible et je suis content qu'il a eu lieu ce soir.
Ouais. Mais il y a le député Nzangi Mwindo, qui est député provincial, qui a dit que l'action de la MONUC doit être révisitée. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, l'action de la MONUC doit certainement être revisitée. La MONUC a un mandat qui est très vaste, qui comprend beaucoup d'éléments, mais l'élément principal, c'est la protection de la population civile. C'est ça l'élément prioritaire dans le mandat que le Conseil de sécurité a donné à la MONUC. Et nous pensons, et d'ailleurs pas nous comme Oxfam, mais vraiment les populations avec lesquelles nous sommes en contact tous les jours sur le terrain, ils pensent que cet élément, c'est le plus important pour eux. Ils se sentent pas protégés, pas suffisamment protégés, ni par un côté, ni par l'autre. Et nous pensons les actions de protection et les actions de désarmement volontaire, ils doivent être repriorisés.
Alors, un petit mot, peut-être en 30 secondes, Manoj Monobay, avant de dire au revoir à M. Marcel Stossel, directeur national de l'ONG Oxfam.
Oui, je crois que nous disons tous la même chose. Nous sommes préoccupés par la société, par la situation de la population civile. Nous avons sur place, comme je l'ai dit, nos équipes conjointes de protection qui s'occupent, qui se chargent de cette question. Et concernant le rapatriement, nous avons la section DD3R qui est là. Tous les combattants et leurs dépendants peuvent s'adresser à cette session pour un rapatriement dans leur pays. Et le HCR travaille aussi dans l'Est de la République démocratique du Congo pour le rapatriement des civils. Et à ce jour, depuis janvier 2009, plus de 10 000 personnes ont déjà été rapatriées. Voilà, à propos de ce programme existe.
Voilà, nous en profitons maintenant pour dire au revoir à Marcel Stossel. Et nous espérons bien, vous avez mis aussi le vœu, vous retrouver prochainement dans nos débats.
Merci beaucoup et bonsoir.
Bonsoir Marcel Stossel. Je rappelle que Marcel Stossel est directeur national de l'ONG Oxfam en RDC. Cela nous permet d'entamer la deuxième partie de ce débat. Pendant que la MONUC se dit pas disposée de suspendre son soutien aux offensives des FARDC dans les opérations Kinéa 2, le commandant de ces opérations précise que Kinéa 2 concerne en plus des FDLR tous les autres groupes armés locaux réfractaires au désengagement ou à leur intégration au sein des FARDC. Comment comprendre cette décision des autorités FARDC de traquer non seulement les FDLR, mais aussi les groupes locaux réfractaires à leur intégration? On en parle tout de suite, mais nous vous rappelons très rapidement d'ailleurs nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Au Nord Kivu, certains responsables des ex-groupes armés ont renié leur signature lors de la déclaration de fin de leur existence du mois d'avril dernier à Goma et ont regagné la brousse. Le gouverneur du Nord Kivu, qui revient d'une tournée de travail dans la partie nord de la province, cite nommément le cas de La Fontaine, de l'ex-groupe armé Pareco. Celui-ci s'est déjà retranché dans le secteur de Mbingi, Bunyatenge et Muhanga, dans le sud de Lubero, où il coalise avec les FDLR. Pour Julien Paluku Kaunga, La Fontaine s'est déclaré lui-même ennemi de la population et doit être traité comme tel. Julien Paluku invite la population du sud de Lubero à se désolidariser désormais avec La Fontaine et tous ceux qui sont avec lui. On écoute Julien Paluku au micro de Jules Gala.
Je tiens à préciser que il y a Monsieur Kakule Sikuli Lafontaine qui était à Goma, mais qui a rejoint les maquis à Bunyatenge et environ pour coaliser avec les FDLR. L'armée est à sa recherche. Parce que maintenant, il démontre officiellement qu'il est l'ennemi de la République et qu'il doit donc être traité comme tel. Et c'est donc un appel que je lance à toutes les populations du sud de Lubero de se désolidariser totalement de ce genre de personnes qui sont auteurs effectivement de toutes ces exactions qui sont commises dans le sud de Lubero. Il y a des cases incendiées, il y a des gens qui n'ont plus d'abri, il y a des gens qui sont violés ça et là. Donc je considère que des gens comme La Fontaine sont désormais des ennemis de la République et doivent être traités au même titre que les FDLR.
Alors, monsieur le député provincial Nzangi Muindo, puisque vous êtes encore avec nous, comment vous accueillez ce message du gouverneur Julien Paluku?
Je crois que c'est un message effectivement du gouverneur, mais il y a lieu aussi de pouvoir revenir à une chose, puisqu'on ne le dit pas tout haut. C'est qu'effectivement, à un certain moment, on a demandé au groupe d'armée de signer un accord avec le gouvernement, ce qui a été fait, mais il n'était pas suivi d'un engagement réel. Ce qui est vrai, c'est que nous qui sommes sur le terrain, nous avons vu que le groupe d'armée est réussi à la ville de Goma. Même les combattants qui ont été regroupés partout en Yalek ou dans le centre de regroupement, on les a vus abandonnés à eux-mêmes, ils n'avaient ni nourriture, ils n'étaient pas encadrés. Comment voulez-vous que les personnes effectivement qui viennent des hostilités, qui ont fait des combats très durs, qui viennent de la pousse, qui restent dans des endroits où ils sont censés être protégés par le gouvernement, mais sans nourriture, sans encadrement, effectivement, on les mettait dans les conditions qui, à n'importe quel moment, ils pouvaient revenir à prendre les armes. Ça, c'est vraiment une première chose que je dois dire.
Est-ce que vous voulez?
La question, c'est qu'effectivement, il y a eu une discrimination au niveau de l'intégration des combattants. On a vu le combattant de CNDP être intégré très rapidement, mais les autres combattants, normalement, on a bien abandonné.
C'est là,
effectivement, qu'il puisse y avoir des frustrations au niveau des combattants.
Là, c'est comme si.
Cela ne veut pas dire que moi, honorable dame du Gangourage, ces gens, mais c'est pour dire effectivement que nous avons un problème au niveau de notre politique de sécurité. Est-ce que vraiment nous avons voulu que ces gens ne soient plus en danger pour notre population? Si on l'avait voulu, on devrait prendre des mesures en temps opporté. Mais là, vous retrouvez que presque tous les groupes armés qui étaient signataires des accords, ils sont en train de se rétracter. Aujourd'hui, par exemple, dans le Lubero,
oui.
La Fontaine a plus d'éléments qu'il avait avant la signature des accords. Où est-ce qu'il a allégé tous ces combattants-là? Ce sont les gens, effectivement, qui viennent d'autres groupes armés et qui n'ont pas été engagés par le gouvernement.
On va écouter.
On
vous a compris, on va écouter Didier Bitaki qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Didier Bitaki.
Bonsoir.
Ouais, c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps dans ce débat. Je signale seulement que vous êtes porte-parole des ex-groupes armés du Nord Kivu. Votre première réaction, justement, par rapport à cette mise au point, hein, une sorte d'avertissement, d'ailleurs, du gouverneur Paluku vis-à-vis de Aix-la-Fontaine et Parico.
Bon, écoutez, le gouverneur s'est exprimé. Ça, c'est l'entendement du gouverneur que je respecte beaucoup. Mais quant à ce qui concerne les différentes réfractions qui se font au niveau, au fait de faire des faits juste pour que le gouverneur arrive à déclarer cela, je pense que quelque part il faudra aussi voir est-ce que les autorités ne sont-elles pas responsables de ces réfractions au sein de l'armée, d'une autre part. Parce que vous ne pouvez pas avoir, par exemple à Goma aujourd'hui, il y a plus de 12 chefs de ce groupe d'armée qui attendent leur intégration, soit ils iront au centre supérieur militaire, si d'autres veulent être affectés ou déployés sur le terrain, il y en a même ceux qui ont intégré l'armée, mais qui disent qu'ils voulaient devenir tout à fait civils parce qu'ils ne trouvent rien, pendant que les autres qui sont ici d'autres groupes d'armée sont en train d'être bien traités. C'est pour cette raison que moi, de toutes les façons, s'il faut rétablir l'autorité de l'État, je suis d'accord, mais je ne suis pas non plus d'accord avec un propos qui irait dans le sens de certaines personnes congolaises. Par exemple, le cas de la Fontaine. Il n'est pas question qu'on puisse aller encore lui faire la guerre pour tuer la population, parce que lui va se défendre et cela va se passer au milieu de la population. Finalement, on aura des victimes en victimes. Quelle est l'armée qu'il faudra utiliser? C'est une armée également dans laquelle nous trouvons déjà que la Fontaine a donné au gouvernement. Donc, il faudra trouver des solutions de manière à ce que ces gens se sentent à l'aise au niveau, au sein de l'armée, et peut-être des petits problèmes pareils n'arriveront plus.
Voilà, ça c'est l'idée du texte. Peut-être un mot avec vous, M. Manoje Munubai, avant d'écouter le colonel Delphin Kalimbi, qui s'est aussi prononcé à propos des réfractaires.
Oui, vous savez que notre mandat, le mandat de la MONUC actuelle, est placé sous la résolution 1856. Et cette résolution 1856 rappelle à l'État congolais sa responsabilité pour assurer la sécurité, non seulement de la population, mais la protection de son territoire. Et la résolution 1856 a aussi condamné tous les groupes, les différents groupes armés, tout en leur demandant très formellement, de déposer les armes. Et je pense que ceux qui ont pris l'engagement de Goma, ceux qui ont déclaré la fin de leur existence, devraient pouvoir continuer à s'engager dans les voies pacifiques afin que la population n'ait plus à retourner pour souffrir des affres de la guerre. Par conséquent, je pense que en ce qui concerne nous, au niveau de la MONUC, nous ne pouvons pas cautionner un retour à la guerre ni un retour à un état de bellicisme. Nous ne pouvons qu'encourager les gens à explorer d'autres voies qui sont des voies pacifiques pour régler ces problèmes.
Il y a des observations soulevées tout à l'heure, excusez-moi, par Didier Bitaki et même le député provincial Nzangi Muindo. Qu'est-ce que vous en dites le retard, par exemple, dans l'opération d'intégration? Certains groupes se sentent marginalisés par rapport à d'autres. Est-ce que
nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où personne ne respecte son mot? Parce que si le gouvernement n'a pas respecté ses engagements, ce n'est pas parce que les groupes aujourd'hui vont reprendre les armes que le gouvernement va respecter ses armes, ses engagements. C'est que ces mêmes groupes, en reprenant les armes, ne respectent pas non plus leurs engagements.
Voilà. On va écouter le colonel Delphin Kayimbi, qui est commandant des opérations Kimia 2, et s'exprimer justement par rapport au groupe réfractaire qui, selon lui, serait mis dans le même sac que les FDLR.
Pendant l'exécution de notre mission, nous tombons sur les Maïmaï. Les Maïmaï, qui sont désarmés, sont traités comme prisonniers. Maïmaï Niakiriba a voulu empêcher les FARDC de progresser. Nous avons ordonné qu'ils soient traités. Nous avons réussi à désarmer jusque-là une dizaine de Maïmaï. Nous avons récupéré leurs armes. Mais en tout cas, c'est un signal pour les autres. Je venais d'apprendre aussi que un certain Yakotumba aurait tenu des réunions, de sensibiliser encore la population à se réarmer. Nous nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Avec les Maïmaï, la phase de négociation est déjà passée. C'est-à-dire, nous allons et nous irons jusqu'au bout. Je donne un dernier avertissement aux Maïmaï Zabouloni qui viennent encore une fois de se regrouper. Ils ont la seule chance de se rendre. Il y a encore la porte ouverte pour eux qui puissent travailler aux côtés des forces armées.
C'était le colonel Delphin Kayimbi, commandant des opérations Kimia 2 au sud Kivu. Delphin Kayimbi qu'on devrait avoir dans ce débat, malheureusement, à la dernière seconde avant cette émission. Il a reçu l'ordre supérieur de rejoindre le terrain des opérations. Alors, Didier Bitaki, est-ce que c'est parce qu'il y a du retard dans l'intégration ou parce que vous pensez que certains groupes armés sont mieux traités que d'autres, que la seule solution serait reprendre les armes?
Non. Je dis bien non. Et je vais clarifier la question. Il faut d'abord savoir distinguer le réfractaire de celui qui attend avec patience son intégration au sein de l'armée. Mmh. Je crois que le cas du Sud Kivu est tellement complexe parce que il n'y a pas eu d'abord un tas de préparation de l'intégration. C'était fait précipitamment et je crois que le colonel aurait dû appeler au lieu de lancer des menaces. Il aurait dû appeler les groupes à rejoindre les centres de regroupement, là où ils pourraient être intégrés. Mais quand il dit il va poursuivre, bien sûr. Mais dans 10 jours, je ne sais pas que quelqu'un puisse quitter Minembwe pour arriver à Bukavu ou les centres, ou pour rejoindre les centres d'intégration. Ce qui est nécessaire, c'est de comprendre que même si ces groupes existent encore, là où on va les pourchasser, il y a des populations civiles que nous prétendons protéger. Finalement, quand on va se battre entre le FADC et un groupe armé, il y aura des victimes. Qui est responsable? Je crois que c'est lui qui aurait planifié les opérations. Pour nous, on n'a plus besoin de ce genre d'histoire, de ce genre de discours. Le vrai discours auquel nous nous attendons, c'est de dire que tout le monde doit arrêter la guerre, tout le monde doit déposer les armes, alors tous vers l'armée régulière, ou alors ceux qui ne veulent pas de cette armée doivent se démobiliser. Je donne un cas de flagrance. Il y a de cela 5 mois.
Allez-y rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission.
Les Maïmaï du Profois sont à partir du Tedero jusqu'à Ombo. C'est sur Radio Okapi que j'aurais appris qu'ils sont arrivés même à empêcher les FADC de se déployer dans les zones qui contrôlaient. Mais ils étaient là, ils font du travail au compte du gouvernement. Ils attendent une libération. Finalement, on arrête, on tire, on tape, je ne sais pas, mais ça va poser des dégâts que nous ne pouvons pas nous imaginer. Voilà pourquoi moi, je demande à ces autorités qui organisent l'intégration de penser et de réfléchir avant de poser aucun acte répréhensible contre les ex-groupes armés, parce que c'est bien que la faute incombe. Donc c'est ces autorités-là que la faute incombe et non à ces ex-groupes armés.
Voilà, Didier Bitaki, c'est pratiquement avec vous que nous devons mettre fin à cette émission. C'est dommage, ça devenait de plus en plus intéressant. Désolé, député provincial Nzangi Mouindo n'a pas pu placer son dernier mot. Nous vous disons merci, M. Manoje Monobaye, Didier Bitaki, Nzangi Mouindo, mais aussi à Marcel Stossel, directeur national de l'ONG Oxfam, avec qui on a commencé cette émission. C'est la fin. De Dédé Nyangasa était à la mise en onde. Guy Matel, la réalisation, c'était Kelly Nkouté. Jean-Claude Toumakamanga, la présentation, pardon, sous la coordination de Martin Seboujangwe. Merci de nous avoir suivis.